Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
C'est top, le chemin à Paris.
Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi. C'est le début de 90 minutes info. Pour m'accompagner tout au long de ce débat, Ludovine de la Rochère, bonjour, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes président de la Manif pour tous.
Bonjour,
merci à vous pour votre présence. À vos côtés, Édouard Dorion-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Michel Chevalet, bonjour,
oui,
Michel.
Bonjour, Nelly.
Je ne vous présente plus. Hein. Et vous nous êtes précieux.
Le pigiste permanent, quoi.
Qui passe. Chroniqueur en tout genre et expert en énergie. Aujourd'hui, ça va beaucoup nous servir, bien évidemment. Ainsi que Jean Messia, président de l'Institut Apollon. On va partir dans quelques instants à l'Assemblée, parce que vous le savez, beaucoup de questions qui sont liées à l'énergie, à ces délestages qu'on nous promet si l'hiver venait à être particulièrement rude. Vous le savez, beaucoup ont les yeux désormais rivés sur cette fameuse appli EcoWatt pour guetter les alertes. Et il y a une polémique d'ores et déjà autour du sort des particuliers qui sont placés sous respirateur à domicile avec cette phrase qui a fait bondir, il faut le dire. Hein. Le porte-parole d'Enedis estime que les patients à haut risque vital ne seront pas prioritaires et donc, selon lui, éventuellement délestables. Ça a scandalisé non seulement les professions de santé, enfin les soignants, mais également... non mais vraiment...
Excusez-moi, non, mais je pense que le monsieur... Je pense que
également des représentants
non, mais,
politiques.
Pardon, c'est juste le porte-parole d'Enedis, avec tout le respect que je dois pour tous ceux qui sont des travailleurs et qui font ce dur métier de porte-parole. Il sera vite fait recadré, je pense.
Non, mais
franchement, il n'a pas très bien mesuré ce qu'il dit, parce que c'est pas possible de dire un truc comme ça.
Défini par les préfectures, il dit pas que c'est Enedis qui considère pas qu'ils sont prioritaires. Il dit que ce sont les préfectures qui ne les ont
donc
pas définis comme prioritaires. Oui. Et ensuite, Enedis applique les règles données par les préfectures.
Alors c'est intéressant qu'il ait parlé parce que pour le coup, je pense qu'ils pourront corriger les petites erreur de diagnostic par rapport aux gens qui ont besoin de santé. Franchement, si on commence à expliquer aux Français
j'entends votre réponse, mais il n'empêche.
Je crois que ça n'a aucun risque d'arriver. Et au moins, comme alerte.
À cette situation-là,
Et alors, comme alerte, ça peut être intéressant qu'elle dise et les préfectures
un peu de mesure,
anticipe.
Maladresse ou à côté de la plaque?
Non, mais dire que des gens qui sont malades, parce qu'il s'agit de cela,
absolument.
Très malades même, sont délestables est un propos détestable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je ne vois pas, si vous voulez, je ne comprends pas comment notre société et notamment les élites politico-médiatiques qui nous gouvernent peuvent être aussi sensibles, aussi émotives, aussi pseudo-humanistes sur tout un tas de sujets et se permettre de tenir un propos aussi inhumain.
Pardon, Jean Messia,
c'est le porte-parole d'Enedis.
Je vous coupe.
La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, les derniers chiffres publiés par l'INSEE font état d'une inflation à 6,2% à fin octobre, avec une hausse des prix de l'alimentation de plus de 12%. Si ces chiffres restent élevés, l'action massive du gouvernement depuis l'automne 2021 a permis de les juguler, grâce notamment aux dispositifs visant à limiter la hausse des prix de l'énergie. Ils permettent ainsi à notre pays d'afficher une inflation bien plus faible que celle de la zone euro, qui atteint 11,5% en moyenne, avec notamment l'Allemagne et ses 11,6% ou encore l'Italie qui grimpe à 12,6%. Malgré tout, certains secteurs sont davantage fragilisés. C'est notamment le cas de nos artisans boulangers ou de nos bouchers qui nous alertent de façon inquiétante sur leur situation. En effet, la hausse parfois vertigineuse du coût des matières premières, farine de blé plus 43%, beurre plus 21%, conjugué à l'explosion du coût de l'énergie, amène de nombreux professionnels à s'interroger sur la poursuite de leur activité, pourtant vitale, d'autant que vous nous avez annoncé que le pic de l'inflation n'était pas encore atteint. Il nous expose des situations ubuesques avec des factures d'énergie parfois multipliées par 20. C'est le cas dans ma circonscription. Monsieur le ministre, je vous sais particulièrement mobilisé pour accompagner tous nos petits commerçants qui sont heurtés de plein fouet par cette crise. À l'heure où la baguette vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Pouvez-vous nous faire part des dernières mesures envisagées pour répondre à l'ensemble de leurs inquiétudes? Je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
Oui, merci Madame la Présidente, Madame la députée. D'abord, merci de rappeler que grâce à l'action du gouvernement de la Présidente de la République depuis octobre 2021, la France garde le taux d'inflation le plus faible des pays de la zone euro. Nous avons donc protégé nos compatriotes contre l'impact trop dur de la flambée des prix. Pour ce qui est des boulangers, pour entrer un tout petit peu plus dans le détail, le guichet d'aide est ouvert aujourd'hui pour les factures 2022. Mais ce qui les inquiète, comme vous l'avez parfaitement dit, c'est la facture 2023. Nous leur garantissons déjà une réduction globale de factures en moyenne de 20% pour tous les boulangers qui auront droit à ce tarif préférentiel de l'électricité. En deuxième lieu, nous allons relancer des fournisseurs qui doivent offrir des offres alternatives. C'est la charte qui a été signée par tous les fournisseurs. En troisième lieu, nous voulons que cette baisse des prix soit indiquée dans le projet de facture 2023 pour alléger l'inquiétude des boulangers et qu'ils sachent exactement ce qu'ils vont payer plutôt que le tarif indicatif, souvent aux heures pleines et au moment de plus forte consommation, qui leur est indiqué. Ensuite, si nous voyons que pour un certain nombre de professions, et je pense en particulier aux boulangers, l'ensemble de ces mesures transversales ne sont pas suffisantes, nous sommes prêts avec la Première ministre à étudier des mesures complémentaires. Je le redis, nous ne laisserons pas tomber les boulangers de France. La seule chose que j'exclus, et que d'ailleurs les boulangers ont parfaitement compris, c'est une augmentation globale des TRV sur toutes les entreprises à 3 milliards d'euros qui revient à gaspiller l'argent public et à augmenter les impôts des Français derrière pour rembourser la facture. Les boulangers ne le souhaitent pas. Ce n'est pas ce que nous ferons. Ce n'est ni efficace, ni juste, ni ciblé. Nous privilégierons des mesures efficaces, justes, rapides et ciblées.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Panifous pour le groupe Liberté.
Voilà, là, on était clairement dans cette question sur la problématique des boulangers qui voient leurs factures aussi grimper en raison de la consommation. On est toujours sur des problématiques d'énergie, mais quand même, j'aimerais revenir à ce sujet qui vous a fait déjà vous opposer grandement autour des propos du porte-parole d'Enedis, Édouard Dorian-Sipel, qui minimise un peu la portée en
non,
disant...
Non, c'est pas bon, ça. Je pense non, que c'est si, grave vous dites, pour c'est un porte-parole de commettre
alors,
de telles
fautes
d'expression.
On n'a pas bien compris votre propos initial, pardon, mais vous dites non, mais il a juste dit, c'est un porte-parole,
non,
il faut minimiser.
C'est à la fois la position qui est la sienne, c'est quand même pas quelqu'un qui est en position... Permettez-moi juste de faire un raisonnement.
Il est porte-parole d'Enedis.
D'abord, il y a deux réflexions. D'abord, pour un porte-parole, franchement, c'est une faute professionnelle. Parce que l'image d'Enedis, quand on explique que les gens malades vont pas être prioritaires,
donc
on se demande.
On est
dans une erreur qui est l'expression même du langage technocratique déshumanisant. De ce point de vue, là, c'est grave.
D'accord.
Ce qui est moins grave, c'est que personne à un haut niveau de l'État ou à un haut niveau de responsabilité se permettrait ni d'exprimer ni de penser une telle atrocité.
Allez, Jean-Messia, j'ai dû couper la parole pour les questions gouvernement.
Nous avons ici un propos de la gauche dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que M. Sipel, hier et avant-hier, nous expliquait qu'il ne fallait surtout pas dire un mot de négatif sur le camp de migrants qu'il y avait au Palais-Royal, parce qu'il fallait faire preuve d'humanité, qu'il fallait faire preuve de tolérance, d'amour, de bienveillance,
et que
quiconque critiquait
c'était
ça,
pas moi que
c'était
vous
un monstre,
face
c'était un néo-nazi, etc. Et maintenant, lorsqu'on critique,
pas parlé de ce sujet-là,
lorsqu'on critique
parler,
un propos mais... éminemment inhumain, éminemment scandaleux, choquant, parce qu'il s'agit de personnes très malades qui risquent pour le coup leur vie, là, il y a un exercice d'acrobatie amoindrissante de la gravité du propos. Franchement, vous devriez condamner plutôt que de chercher... si ça avait été des migrants, vous auriez été là en train de faire la danse du ventre.
Je pense qu'un tel porte-parole, il nuit à votre entreprise avec des propos aussi scandaleux.
Non, mais
c'est un métier de porter une parole publique, y compris quand on est une grande entreprise. Moi, j'ai été porte-parole, je le suis toujours. À un moment donné, il y a des règles. On essaye de réfléchir à ce qu'on dit.
Oui, mais
ça me paraît assez grave de dire...
Vous parlez d'une petite maladresse. Là, vous avez un petit peu changé de propos quand même.
Moi, je ne suis ni porte-parole du porte-parole d'Enedis, et vous n'êtes pas non plus, cher Nelly, avec tout le respect et l'amitié que j'ai, porte-parole de moi-même. Donc,
j'essaie juste de recontextualiser ce que vous avez dit en premier lieu.
Je dis à la fois, je trouve que c'est grave pour un porte-parole de dire de telles énormités, Je ne comprends même pas que, d'ailleurs, si on demandait à Enedis, ça m'étonnerait que ce soit leur position, d'une part. Donc, c'est une faute professionnelle pour un porte-parole. Et d'autre part, je pense qu'elle n'aura aucun effet parce que je ne vois pas comment on peut imaginer que les personnes qui ont des difficultés de santé, qui dépendent de l'énergie et de l'électricité, soient privées alors qu'elles sont malades.
Vous n'avez pas dû lire la phrase qui a écrit « Les personnes à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. »
Je crois que ce type parle. Cette personne parle une langue étrangère, technocratique, et qui n'a rien à voir avec la réalité.
On va halluciner. On va la laisser répondre, s'il vous plaît. Aller
jusqu'à la fin, oui, s'il vous prie. Plaît. La question, c'est que, apparemment, sauf erreur de la part de ce porte-parole, c'est une décision de l'État.
Ah ben, vérifions là, parce qu'elle est elle m'a l'air comme. Je ne pense pas que l'État ait mis une croix rouge sur les gens malades.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout, s'il vous plaît? Je vous remercie. Moi, j'ai été confrontée il y a un an et demi à une coupure de courant, et mon père était très gravement malade. Il avait un cancer qui s'est soudainement aggravé. Il arrivait vraiment en fin de vie, il a dû être mis sous oxygène et au bout de quelques jours, il y a eu une coupure d'électricité. J'ai appelé EDF et qui m'a envoyé balader. Et donc, je confirme qu'en effet, c'est un sujet qui est extrêmement maltraité. Alors après, il faut dire que l'état de mon père s'était aggravé d'un seul coup et donc je n'avais pas encore eu le temps de faire toutes les démarches, qui fait que l'ARS prévient Enedis, qui va considérer que là,
mais pourquoi
y a
couper l'électricité? Donc je ne comprends pas.
Peu importe.
Mais c'est absolument
injuste. On était.
Allez, on va pas faire tous les débats là-dessus.
Ne sont pas bien traités.
L'idée, c'est juste,
ça n'est pas que. Si je comprends bien, en fait, c'est aussi au niveau des préfectures que ça se joue. Et là, il y a quelque chose qui mérite d'être demandé.
Dites à votre voisin juste qu'il peut y avoir des immigrés parmi les malades, et là, vous réveillerez son émotion.
Alors l'idée, quand même, c'est de vous faire réagir à un petit peu plus qu'une seule phrase, hein, parce que sinon on peut passer l'heure et demie là-dessus aussi, c'est que vous qui voyez. Moi j'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron qui dit depuis l'étranger, on va tenir cet hiver, le scénario de la peur, trop peu pour moi. Je vous soumets cet extrait du président de la République française et vous me dites ce que vous en pensez.
Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
Ouais. Le sous-texte, c'est vous m'ennuyez tout autant que vous êtes ?
Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'on se demande parfois si le président de la République est tout simplement normal dans sa tête. Parce que dire, décréter que le gouvernement doit faire son travail et que parce qu'il fera son travail, il n'y aura pas de coupure, mais qu'est-ce qu'il entend ? Que le gouvernement va pédaler sur des vélos pour faire tourner des dynamos du jour au lendemain et qu'il va fournir l'électricité.
Mais il parle de nous aussi, hein.
Il parle de nous.
Non, mais aux Français aussi.
Il dit parce que le gouvernement va travailler, il n'y aura pas de coupure. Mais je suis désolé, les coupures, elles ne tombent pas du ciel. Les coupures résultent de choix à la fois structurels, on l'a dit et redit mille fois, sur l'abandon progressif ou le délaissement progressif de la filière nucléaire et de raisons conjoncturelles liées à la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie et surtout des choix stratégiques du président par rapport à cette guerre. Donc ça tombe pas du ciel. Donc à partir de là, c'est pas parce que le président de la République va venir décréter qu'il va y avoir de l'électricité qu'il n'y a pas de problème que par un coup de baguette magique, les choses vont se régler.
Michel Chevalet, qu'on n'a pas encore entendu, ça fait un peu aux autres le sale boulot. Moi, je distille la bonne parole.
Ah non, mais
déjà hier, il disait pas de famille.
Je partage cette analyse. Ce n'était pas le rôle du porte-parole d'Enedis, puisqu'il représente vis-à-vis de l'extérieur l'entreprise.
Voilà.
D'avoir un tel propos. Là, il a ruiné, je dirais, tous les efforts qui ont été faits dans la communication qui se voulait rassurant.
Merci
du gouvernement.
Chevalet,
et refaire du rétropédalage maintenant. Le président a soufflé la fin de la partie, il a dit « silence dans les rangs ». Maintenant, terminé, c'était son rôle. Parce que, si vous voulez, d'une manière imagée, on était au début de cette... Et on n'est qu'au début, on était dans la même situation qu'avec le Covid. C'est-à-dire qu'au début du Covid, tout le monde parlait, beaucoup de gens qui n'étaient même pas compétents se sont fermés. On a eu des situations invraisemblables. Vous vous souvenez de l'affaire des masques. Non, les masques, ça ne sert à rien. Puis après, non, il faut les porter.
Et
là,
les mettre.
Ils se sont trouvés, le gouvernement s'est trouvé dans une situation inhabituelle et inattendue, une telle crise. Et donc, on a assisté que tout le monde y allait. EDF disait, moi, j'écoutais, j'ai suivi la politique gouvernementale, c'est vrai que mes réacteurs, ils ne sont pas tous au garde-à-vous, mais j'ai ceci, cela. Et il a dit, c'est RTE. RTE, qui distribue le courant, qui ne le fabrique pas, dit, attendez, moi, je ne peux donner que ce que je reçois. Or, il va me manquer du courant. Et puis après, Enedis, qui est en face, lui, du client, directement, c'est-à-dire le consommateur, dit, attendez, moi, je ne peux pas faire face à la demande et donc je suis obligé de délester.
Dans l'hémicycle, avec une question du RN sur l'accord européen concernant le gaz.
Madame la ministre de la Transition énergétique. Madame la ministre, les semaines se suivent et se ressemblent au moment où la France doit affronter la crise énergétique majeure que vous avez largement provoquée. Marine Le Pen et les députés du Rassemblement national n'ont eu de cesse de vous avertir sur cette situation catastrophique. Mais Madame la ministre, de semaine en semaine, vous nous baladez sans donner la moindre réponse aux problèmes des Français. Le 25 novembre dernier, la France et l'Allemagne ont scellé un accord d'échange. La France devant livrer une partie de ses réserves de gaz contre de l'électricité allemande. Un accord aux abords simples, mais aux contours flous et imprécis. Malgré nos questions récurrentes, en commission, dans l'hémicycle ou à Matignon, lors d'entretiens avec Marine Le Pen, vous refusez de donner les conditions précises d'application de cet accord. La France livre déjà depuis mi-octobre son gaz. C'est un fait. Quelles sont les conditions économiques et financières de cet accord? Quelles sont les obligations réelles de l'Allemagne sur leur livraison d'électricité? Nous nous inquiétons, car des personnes chez EDF nous ont alerté que les Allemands prétextent régulièrement des problèmes techniques pour ne pas nous livrer de l'électricité quand notre réseau est sous tension. Ces incertitudes sont scandaleuses quand on voit le risque de coupure d'électricité et l'explosion des coûts de la facture énergétique de nos entreprises. Je pense aux bouchers et charcutiers qui ont manifesté la semaine dernière pour la première fois depuis 30 ans. Je pense à tous les petits commerçants, artisans, boulangers. Je pense à Flexico, une PME de 250 salariés à Hénonville dans ma circonscription, fleuron français de l'emballage aux 200 brevets internationaux dont la facture énergétique va largement dépasser ses bénéfices. C'est une cascade de faillites et un chômage de masse que nous allons devoir affronter. Madame la ministre, quelle garantie avons-nous que l'électricité allemande nous soit livrée quand notre pays en aura besoin? Quelles sont les conditions que vous avez négociées? Il est temps de répondre à la représentation nationale.
Je vous remercie.
Voilà, il y aurait tant à dire aussi sur cet accord et la solidarité européenne en matière énergétique. J'aimerais quand même qu'on se concentre un petit peu sur cette déclaration d'Emmanuel Macron depuis l'étranger. Depuis l'étranger, cette précision a son importance parce que ça fait plusieurs fois qu'il distille des messages, qu'il donne des leçons, qu'il s'exprime très très loin de la France. Est-ce que ça envoie un message négatif? Est-ce que c'est un petit peu lunaire de la part d'un chef de l'État de parler de questions de souffrance d'un peuple? Il s'agit de souffrance quand même en l'espèce.
C'est-à-dire
souffrance à venir depuis l'étranger.
Quand Emmanuel Macron s'éloigne, tout d'un coup, il est pris de courage, enfin d'un mauvais courage, puisqu'il s'agit finalement de faire la leçon aux Français, mais de l'extérieur. Un chef de l'État ne critique pas son peuple hors dehors de son territoire quand il est dans un autre pays. Et là, il le fait non pas en redisant, en parlant de Gaulois réfractaires, mais en leur faisant la leçon. Mais le comble, et c'est là où en effet je vous rejoins, c'est lunaire, c'est qu'il parle de ne pas manipuler une politique de la peur, mais il n'a pas cessé de faire cela depuis des années. Ça a commencé avec les Gilets jaunes, d'une part. D'autre part, s'il y a des difficultés, c'est parce que précisément lui-même et ses gouvernements n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire. Il n'y a pas d'anticipation. On a modifié les règles d'entretien des centrales nucléaires, ce qui fait qu'elles sont, pour un certain nombre d'entre elles, à l'arrêt. Troisièmement, il n'a changé d'avis, un revirement de feuilles mortes dans le vent, qui se laisse aller au gré du vent, parce que c'est ça qui s'est passé. Alors il y avait la mode des écologistes, il ne fallait pas de nucléaire. Après il a découvert, on ne sait pas très bien comment, que c'était incontournable. Et puis après, Pannier-Runacher, sa ministre, nous dit qu'il n'y a jamais eu de dépendance énergétique. Mais on rêve, c'est ce qui a été fait, et ce sont les erreurs de nos politiques, dont Emmanuel Macron, qui nous conduisent à cette situation-là.
Édouard Dorian-Sipel, en un mot quand même. Il y a un côté de déconnexion totale chez cet homme maintenant. On a tellement parlé de Jupiter et puis on a abandonné Jupiter. On revient à un Jupiter de plus en plus éloigné.
Je ne crois pas du tout.
Ah bon?
Oui.
Allez-y alors.
Mais écoutez, d'abord, c'est le premier président qui a été réélu après un premier mandat depuis très longtemps. Donc je pense comme déconnexion, je pense que c'est plutôt une connexion assez forte avec les Français.
Il n'avait pas d'opposant pour les Français.
Soit ce n'est pas sa faute, et à ce moment-là, ce n'est pas son problème. Lui, il fait son jeu. Que l'équipe en face soit mauvaise, bah, tant pis pour elle. Et à ce moment-là, c'est comme en Coupe du Monde, on gagne 4-0. Soit c'est sa faute, et à ce moment-là, il est très fort parce qu'il a une capacité à étouffer les adversaires et donc à gagner un combat politique.
Mais il est cynique.
Là, on n'est pas en train de parler de stratégie politique, on est en train de parler des Français.
Oui, absolument. Et comme je pense que les Français ne sont pas des fous ni déconnectés, ils ne vont pas se donner comme président quelqu'un de déconnecté. Mais maintenant, vous me posez la question.
Il n'avait pas le choix.
Et c'est la vie, c'est comme ça.
Ils ont estimé qu'ils
avaient
pas le choix
et 28% des Français ont porté leur suffrage à Macron. Ça, c'est un premier point.
Le plus grand parti de France, c'est l'abstention.
Moi, sur la question plus concrète, on m'a posé une question générale, je réponds de la manière...
Maintenant, on peut s'en laver les mains. Vous m'avez réélu, je dis ce que je veux.
Pas du tout. À tel point que, y compris quand il est à l'étranger, il trouve parfois important de s'adresser à son peuple sur des questions domestiques et intérieures. Pourquoi ?
De manière critique. Ça fait 10 jours.
Autant il y a une règle générale à laquelle je tiens et qui fait partie, voilà, on ne règle pas les questions intérieure à la France quand on est en voyage extérieur, très bien. Mais je pense aussi que les temps ont changé. Les temps sont ceux de l'information continue, c'est non-stop. Et parfois, effectivement, je pense qu'il y a une attente d'une parole pour remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Il y avait du désordre sur cette question énergétique. On est entré dans une sorte de, effectivement, de phénomène panique autoréalisatrice. Et à ce moment-là, je pense important que le président vienne dire, écoutez, on ne va pas paniquer. Moi, ce n'est pas mon rôle de paniquer. On va bosser, on va relever les défis et chacun va faire son travail. C'est ça qu'il dit, parce que je trouve très pernicieux
qu'il
y ait cette panique qui commence à monter de manière irrationnelle.
Vous allez faire un mea culpa sur les choix en matière de nucléaire ?
Déjà, la première chose, vous savez, le fait de reconnaître une erreur n'est pas honteux. Au contraire, c'est quelque chose qui vous grandit et qui vous grandit encore plus quand vous êtes président de la République. Donc, un président de la République, on sait qu'il a un travail difficile parce que gouverner un peuple, notamment le peuple français, c'est compliqué. C'est pas une honte d'avouer qu'il a eu tort sur les virevoltages en matière de nucléaire, etc.
Mais
on va retenir quand même, si vous voulez, globalement, que sous Emmanuel Macron, le pays des Lumières est tombé dans les ténèbres. Le pays des Lumières va connaître l'obscurité. Ah bon. Pour le progrès qui nous a été vendu et le progressisme qui nous a été vendu, c'est quand même un comble.
Un extrait pour Michel Chevalet. Je vous propose d'écouter Fabien Bouglet qui nous dit à quel point, selon lui, on a fracassé le nucléaire. Le propos est assez fort. Écoutez.
À l'heure où la ministre Agnès Pannier-Runacher vient défendre son projet de loi sur les renouvelables, dont on a vu qu'elles sont inefficaces depuis 12 ans, quel symbole vis-à-vis des Français. C'est un échec de ma politique. Je viens accélérer les renouvelables qui sont au cœur de la problématique, puisqu'on a accéléré les renouvelables, on a développé, on a investi plus de 100 à 150 milliards dans les éoliennes et on n'a rien fait pour financer la relance du nucléaire. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on a fracassé, notre système nucléaire. Et aujourd'hui, on en paye les fruits de cette politique irresponsable de délaissement de nos réacteurs nucléaires.
Michel Chevalet, beaucoup en conviennent. Avoir déserté le nucléaire, ça a eu de graves conséquences. Pour vous, c'est le cas et on en paye le prix ?
La France est devenue, disons, anti-nucléaire, de manière générale. Alors qu'on était sympathisant ou, disons, neutre, moi je l'ai vécu, j'étais à la commission de sûreté nucléaire pendant 5 ans, on a eu un revirement à la suite d'un certain nombre d'accidents. Il y a eu Tchernobyl, évidemment, qui est dû à une erreur humaine, pas technologique, mais humaine. Ce n'est pas une explosion nucléaire, c'est une explosion vapeur. Il est monté en température et il a pété. C'est ça. Et surtout, il y a eu Fukushima en 2011. Et après Fukushima, tous les pays ont dit « Oh là là, le nucléaire, nom de Dieu, c'est dangereux ». Alors, bien sûr, si la radioactivité sort du réacteur, c'est très complexe. Et on fait tout pour qu'elle ne sorte pas. Or, Fukushima, c'est un problème qui a été le cumul de plusieurs choses. Et notamment, on n'avait jamais, je dois l'avouer, envisagé qu'un tsunami allait noyer les centrales nucléaires,
une méga catastrophe
qui
naturelle.
Ne pouvaient plus être refroidies, etc., etc. Voilà, il y a eu un enchaînement. Bon. Et donc, en 2012, et Hollande en tête, on a dit, comme les Allemands, pour s'aligner sur eux, surtout, on nous regardait, on avait toujours les yeux sur l'Allemagne, on a dit, on va arrêter Fessenheim, il faut arrêter le nucléaire, on va d'abord arrêter Fessenheim, parce qu'il fallait trouver un motif, elle était la plus vieille. Sauf que Fessenheim, moi j'y suis allé plusieurs fois, Fessenheim a bénéficié de travaux de rétrofit pour la mettre au niveau, il y a eu 400 millions d'euros pour les mettre à niveau et les prolonger de 10 ans, mais on a décidé de les arrêter.
Mais quel impact réel sur la production, ou plutôt la baisse de production qui nous conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui?
Mais à partir du moment où, en 2012, après Fukushima, l'opinion a été retournée en disant « Oh là là, on va freiner le nucléaire », l'Allemagne dit « J'arrête », la Belgique dit « Moi aussi, je vais fermer mes réacteurs », la France, dans la foulée, a dit également, on va ramener la part du nucléaire, qui était très élevée, de 70-75% à 50%.
Et c'était pas un arrêt, c'était une diminution et augmentation de la part des autres énergies pour ne pas être dans une surdépendance.
On va y arriver.
Voilà, parce qu'il fallait.
Je reste sur le nucléaire. Et donc, à partir de là, il n'y avait plus d'investissement. Comment voulez-vous embaucher des gens dans une centrale nucléaire où le gars va dire dans deux ans, je vais te foutre à la porte, on va fermer la centrale. Et donc, il y a eu une espèce de laisser-aller des autorités. Et qui a conduit à la situation que l'on connaît actuellement, c'est tout.
D'accord, donc ça ne compense pas, en un mot.
Comment ?
On ne compense pas ce qu'on produisait avant.
Et le renouvelable.
C'était la conséquence d'une politique aberrante.
Je pose une autre question, Jean-Michel. Est-ce qu'aujourd'hui, le renouvelable a compensé la perte du nucléaire ?
Alors, j'y arrive, et je vais vous donner un exemple. Est-ce que le renouvelable, c'est-à-dire on pense à la biomasse, mais c'est très peu, on pense surtout à l'hydraulique. Mais l'hydraulique ne va pas construire des barrages, on l'a fait. On pense également au vent, au solaire et au solaire. Or, on regarde, aujourd'hui, on est dans la pire des situations. J'ai les chiffres RTE. Aujourd'hui, la production d'électricité, la consommation, c'est 70 000 mégawatts, donc on est déjà à un niveau très haut. L'éolien ne fait que 2% en France, 10% en Allemagne. Donc, il ne peut pas, il faut toujours maintenir une part importante d'énergie de base.
On revient juste après la pause et on continue d'en parler. Je vous le promets, comme ça vous pourrez réagir. À tout à l'heure. De retour, 90 minutes. Info, le débat reprend juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. En Ukraine, au moins 6 morts dans des bombardements à Donetsk, dans le Donbass. Le Donbass où Volodymyr Zelensky s'est exprimé depuis la ligne de front. Un déplacement qui intervient au moment où la Russie accuse l'Ukraine de multiplier les attaques de drones contre des aérodromes sur son territoire. Écoutez.
Aujourd'hui, comme souvent, je suis près de la ligne de front avec nos soldats. Aujourd'hui, nous sommes dans le Donbass. La zone de guerre s'est élargie. La lutte est plus dure. Le prix à payer est plus élevé. Mais ce qui reste intact, c'est votre courage, votre endurance, votre volonté et donc notre liberté. Votre indomptabilité et donc notre indépendance.
En pleine discussion autour des salaires à la SNCF, notez cet appel à la grève. Des perturbations sont prévues à compter de ce soir 20h dans les TER de plusieurs régions. TGV ou Intercité annulés également sur les axes Paris-Lyon, notamment retour à la normale prévue jeudi matin. Nicolas Sarkozy jugé en appel dans l'affaire dite des écoutes. Le procès se poursuit. Noémie Schulz, vous êtes au palais de justice de Paris. La cour d'appel a entendu les extraits des écoutes aujourd'hui.
Oui, dans des conditions de sécurité très importantes. On nous a demandé à tous d'éteindre nos téléphones portables, de les mettre dans des petits sacs en plastique et de les laisser bien en évidence. Les ordinateurs étaient également coupés. Tout cela pour s'assurer que personne n'enregistre ces fameuses conversations entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. Pendant une heure, donc, la salle d'audience bondée a écouté avec une grande attention, et Nicolas Sarkozy, le premier, a écouté avec une grande attention ces échanges entre un avocat et son client, puisque Thierry Herzog est un et est l'avocat de Nicolas Sarkozy. Des échanges très gênants, ont souligné d'ailleurs les avocats de la défense, car il s'agit bien sûr, tout cela est devrait être protégé par le secret professionnel. En mars, entre janvier et mars 2014, l'ancien président de la République s'inquiète de savoir si la Cour de cassation va annuler la saisie de ses agendas présidentiels dans l'affaire Bettencourt. Plusieurs fois par jour, ils vont s'appeler avec son avocat et ami Thierry Herzog sur une ligne dédiée, ouverte spécialement sous un faux nom pour ne pas être écouté par les juges qui enquêtent sur l'affaire libyenne. Thierry Herzog évoque un ami, Gilbert Azibert, au magistrat à la Cour de cassation, auprès de qui il tente d'obtenir des informations. On sent que l'avocat cherche à rassurer son client. « Je suis très confiant », répète-t-il à Nicolas Sarkozy avant d'évoquer un poste qui intéresse Gilbert Azibert à Monaco. « Appelle-le en lui disant que je vais m'en occuper parce que je vais à Monaco », répond Nicolas Sarkozy. Pour les juges, tout cela signe un pacte de corruption. Les avocats, eux, rappellent qu'au final, Gilbert Azibert n'a pas eu le poste poste à Monaco, que Nicolas Sarkozy a perdu devant la Cour de cassation, qu'il n'a pas fait de démarche à Monaco et que donc il n'y a jamais eu d'entente entre les trois hommes.
Merci Noémie Schulz depuis le Palais de Justice de Paris. La crise énergétique et les coupures de courant, le gouvernement tente de rassurer les Français. Elisabeth Borne s'est exprimée depuis l'Assemblée nationale cet après-midi. Et comme Emmanuel Macron plus tôt dans la journée, la Première ministre a mis en garde contre ce qu'elle qualifie de fausse peur.
Donc je le redis, notre engagement de tous les instants, c'est de mobiliser chacun pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. Notre responsabilité, c'est de planifier tous les scénarios sans faux semblants, mais sans agiter de fausses peurs. Je vous remercie.
Tout de suite, votre chronique écho avec Éric Dory de Matène. On va parler des entreprises face au coût de l'énergie.
Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
Et nous allons retrouver Éric Dory de Matène pour sa chronique Éco. Éric, vous allez nous parler des délocalisations. Ça va repartir et les États-Unis seront à nouveau grands gagnants à ce jeu-là.
Oui, alors c'est une crainte et si vous voulez, je voulais vous parler de ce sujet parce que ce matin, le MEDEF réunissait des chefs d'entreprise, il y avait aussi les patrons de l'énergie et on sent qu'il y a quand même un signe de découragement qui monte, ça c'est certain, pas seulement en France d'ailleurs, mais cela concerne toute l'Europe. Les Américains proposent actuellement, vous savez, des tarifs d'énergie 3 à 4 fois moins élevés qu'en Europe, c'est vraiment un vrai problème. Ils promettent des rabais fiscaux à tous ceux qui viendront investir aux États-Unis, donc le risque de délocalisation se fait vraiment sentir. Alors on apprend par exemple, et vous voyez la liste, que le français Saint-Gobain pourrait agrandir son usine de Californie, il fabrique là-bas des isolants, il a prévu d'investir massivement depuis que le prix de l'énergie a augmenté. Solvay, le Belge, veut créer une usine immense pour faire des batteries aux États-Unis. Vous avez le Suédois Northvolt qui devait créer une giga-usine, une giga-factory en Allemagne, eh bien, il va partir aux États-Unis. Et puis BMW et Volkswagen, qui sont déjà aux États-Unis, annoncent qu'ils vont augmenter leur capacité de production. Alors que retenir de tout cela? C'est que le vent, malheureusement, est en train de tourner subitement. Et Geoffroy Roux de Bézieux le disait ce matin, le prix de l'énergie coûte cher, il coûtera cher et ça va durer. La France, donc, doit très vite trouver une réponse. On a vu Emmanuel Macron aux États-Unis qui réagissait au fameux acte de M. Biden qui encourage les entreprises à venir dans son pays. Eh bien là, il faut trouver une formule pour privilégier la préférence européenne. Oui, mais quelle préférence? Il faudra faire vite si on ne veut pas que la réindustrialisation dont on parle beaucoup en Europe, eh bien, soit un projet qui retombe comme un soufflet.
C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
Vous n'avez rien à voir avec elle. Allez, on va continuer à parler parce que ça vous a beaucoup, beaucoup fait réagir cette question de dépendance au nucléaire. On a beaucoup parlé de la réduction de notre énergie nucléaire au profit du renouvelable, arguant que ça ne compensait pas tout à fait. Ça, c'est Michel qui le dit. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Je vous propose d'écouter Éric Ciotti et Sandrine Rousseau sur la question. Et après, tour de plateau à nouveau.
Deux intellectuels.
Il faut développer les énergies renouvelables. Je rappelle que la France est le pays européen qui a le plus de retard en matière de développement des énergies renouvelables. Et d'une certaine manière, on le paye aujourd'hui avec la question des coupures d'électricité. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à plus de 19% à peu près d'énergies renouvelables. Nous aurions dû être à 30, voire à 40 selon les objectifs de l'Union européenne d'ici 2030. Donc en fait, il y a besoin d'un coup d'accélérateur, mais majeur sur ces énergies renouvelables.
Un réacteur nucléaire équivaut à la production de 800 éoliennes. 800 éoliennes, c'est une pollution des sols. C'est des milliers de mètres cubes de béton qu'on enfonce jusqu'à 80 mètres dans le sol.
Ludovine de la Rochère, il nous a fait la démonstration tout à l'heure par A plus B que ça n'avait pas compensé. J'imagine que c'est votre avis aussi. Pourtant, on n'a pas l'impression que le gouvernement fasse amende honorable sur tout ça.
Alors, ce n'est pas que c'est mon impression, c'est que scientifiquement parlant, les énergies renouvelables sont notamment intermittentes. Et par ailleurs, elles ne produisent pas la nuit, elles ne produisent pas quand il ne fait pas beau, je pense en particulier aux éoliennes, mais aussi aux solaires, et d'une part. Et donc, de toute façon, même si on utilise un petit peu ces énergies, qui produisent en plus assez peu, il faut avoir tout le dispositif de production normal, efficace et très puissant qu'est le nucléaire. Et d'autre part, couvrirait-on la France entière d'une éolienne par kilomètre carré, montagnes et vallées comprises et versants des montagnes compris, nous n'aurions toujours pas suffisamment d'énergie, ce serait tout juste. Et donc dire qu'il faut plus de renouvelables et moins de nucléaire, c'est purement idéologique et on voit déjà où l'idéologie nous a amenés aujourd'hui, eh bien, à ce délestage.
Allons-y pour la réponse avec vous, Edouard Dorian-Sipel.
Il n'a jamais été question en France, y compris avec François Hollande, de supprimer et de sortir définitivement du nucléaire. Si. C'était une diminution de la dépendance vis-à-vis du nucléaire, dont la France dépend.
Tout de suite, le mot négatif.
Vous permettez ? Oui, c'est une dépendance. C'est-à-dire que nous dépendons de cette technologie pour pouvoir assurer nos besoins. Mais dans cette dépendance, nous sommes indépendants, puisque c'est totalement français, n'est-ce pas ? Donc, nous étions à 75% de dépendance d'énergie dans notre production nationale. Nous voulions à l'époque passer de 75 à 50. De toute façon, nous devons aller vers le renouvelable, nous devons aller vers un mix et un bouquet énergétique. Ce qui est venu entraver cette situation, c'est une situation nouvelle de guerre avec l'un des principaux pays producteurs de pétrole et de gaz. Non, pas du tout. La tendance... Non, mais alors là, je vous, vous permettez, cher Ludivine... Non.
Est-ce que vous...
Non, pas du tout. Il est juste à l'arrêt pour des... Je ne veux pas rentrer, mais EDF a déjà répondu sur les arrêts des réacteurs. Ils ne sont pas anormaux pour la plupart parce qu'on était en été et on a eu des difficultés avec de la
combustion. On a modifié les règles.
La tendance générale, elle ne change ni pour la France ni pour l'Europe. Il faut monter en gamme en matière de renouvelables et plus d'énergie fabriquée par du
nucléaire.
Mais le nucléaire a été décidé non seulement de le maintenir, mais de le renforcer pour les 20, 30, 40 années. C'est la décision que le président de la République a prise avant même l'élection présidentielle.
La question est, est-ce que
mais
ça
quelle erreur
compense c'est... de réduire le nucléaire de moitié.
On s'en fiche.
C'est vrai qu'on n'avait pas prévu la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
La question est, est-ce que ça compense ? Je suis désolée.
Aujourd'hui, on n'arrive pas à compenser.
Bah oui, mais
on a besoin du nucléaire. J'ai toujours été pro-nucléaire, mais je suis pour une moindre dépendance vis-à-vis du nucléaire. Mais aujourd'hui, les choses changent parce que d'une part, la guerre, et que nous n'avons pas les moyens uniquement de dépendre du renouvelable, c'est une vérité. Ce qui nous explique comme Sandrine Rousseau qu'il faut remplacer le nucléaire par le renouvelable, ce sont des dogmatiques dans un autre monde illusoire.
Mais
heureusement que les Français n'ont pas
compris
du tout. Je suis pour une politique équilibrée qui dépend essentiellement du nucléaire, mais pas à 75%.
Le problème, si vous voulez, la première chose, c'est que moi je suis fasciné par les gauchos progressistes qui nous expliquent que nous serions dépendants du nucléaire. Le nucléaire ne nous rend pas dépendants. Le nucléaire, c'est la veine jugulaire de notre indépendance énergétique.
Absolument.
Depuis une cinquantaine d'années, depuis que
d'accord.
le programme a été mis en place par
et
le général de Gaulle.
Donc
arrêtez de parler de dépendance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a des gens, des extrémistes, qui ont été dans l'entourage de Hollande, mais également de Macron, qui considéraient que les énergies renouvelables n'étaient pas un complément par rapport à l'énergie nucléaire, mais une alternative à l'énergie nucléaire.
Non, nous n'avons jamais pensé ça.
Ce qui est totalement délirant.
Nous n'avons jamais pensé.
Et quand vous, attendez.
Il fait une politique en ce sens.
Vous avez entendu ce que Mme Agnès Pannier-Runacher vient de dire à l'Assemblée nationale il y a quelques minutes.
Non, mais
elle a dit que la France était très en retard. La France était très en retard dans les objectifs qu'elle s'est assignés en matière de renouvelables et qu'en gros, c'était pour ça que nous connaissions des difficultés. Mais excusez-moi, les autres pays européens qui, eux, ont atteint leur objectif en matière de renouvelables, ils sont confrontés à la même situation aujourd'hui. Donc il faut arrêter cette propagande
de lobbyistes,
de l'éolien. Les éoliennes, c'est une catastrophe.
Fantasme.
Laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. Les éoliennes, c'est une catastrophe écologique et financière qui ne résout absolument rien quant à la dépense énergétique. Maintenant, là où vous avez raison, c'est qu'il y a un problème conjoncturel qui est effectivement la guerre russo-ukrainienne, mais je suis désolé, gouverner, c'est prévoir. Si vous, si vous abandonnez progressivement le nucléaire,
mais
vous
n'abandonnez pas le nucléaire.
Vous vous rendez
avant
dépend.
La guerre,
laissez-moi
avant
parler.
Le second tour de la
laissez-moi
présidentielle,
parler. Vous
Macron
êtes, non,
a lancé
vous êtes,
le plus grand
vous
plan êtes nucléaire
enfin,
après le général
ça y
de Gaulle.
Vous recommencez, les,
Pompidou et
pensez que vous étiez devenu sage en laissant passer parler les autres. Ça y est, ça vous reprend. Non, je vous dis que vous ne pouvez pas organiser votre dépendance. Alors évidemment, quand tout va bien, la dépendance, vous ne la voyez pas. Mais non, s'il survient une catastrophe à l'extérieur, votre dépendance arrive au grand jour.
Michel Chevalet. Alors, non, ça va, votre temps de parole, on va couper le micro.
Mais j'ai compris, Monsieur Messier a le droit à tous les monologues. Nous, les gauchos tarés, on n'a pas le droit, c'est ça.
Vous rigolez ou bien vous avez une bavette depuis une heure.
Non, mais
si c'est biaisé, il n'y a pas de problème. Je veux juste que les téléspectateurs le sachent.
Je vous assure, on va compter. On va compter combien de temps vous avez parlé. On va compter combien de temps il a parlé.
Eh bien, merci.
Eh bien, je pense, que vous,
je pense
que vous êtes en positif par rapport à lui.
J'attends les chiffres et je m'y plierai.
On va le faire et on vous l'envoie demain. Pas de problème.
Et donnez les aux téléspectateurs.
Michel Chevalet, est-ce que c'est un gros mot de dire dépendance? Est-ce que dans ce sens, il a raison?
Première fausse idée que le renouvelable, il faut le développer, je suis tout à fait d'accord, peut remplacer toutes les autres sources d'énergie. C'est faux, illusoire.
On est d'accord.
Ah, voilà. Et donc le mixte, oui.
Oui.
Dire que les énergies renouvelables, l'éolien, nous rend indépendants, c'est faux. Il n'y a plus d'industrie éolienne en France. C'est les Danois en numéro un, les Espagnols numéro deux.
Les panneaux solaires sont chinois.
Voilà. Et Siemens, l'allemand. Siemens. Donc, vous importez des technologies, malheureusement. Voilà, c'est la réalité. Voilà. Donc, voilà, je tenais à vous préciser. C'est une fausse indépendance. Hein.
Allez, on va s'arrêter là. Non, sur la question. On attend l'Assemblée nationale.
Avant
aussi,
la guerre, l'Allemagne était sur l'éolien. Il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Et donc, avec toutes leurs centrales
merci.
À charbon.
Merci. On va parler d'un autre sujet, tout autre sujet. Le gouvernement, vous le savez, qui va dévoiler les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration ce mardi avant un débat sans vote à l'Assemblée. L'État veut expulser davantage les étrangers délinquants et réformer le système d'asile. Mais surtout, ce qui est commenté, ce sont ces régularisations pour certains secteurs dits en tension, avec toutes les limites que comporte le texte sur l'après, le fameux donc système de quotas. Avant le débrief d'Élodie Huchard, parce qu'il nous attend depuis un certain temps, je propose de retrouver depuis l'Assemblée nationale Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Merci pour votre patience également. Alors, cette question, évidemment, c'est cette ligne rouge. Sur ce que je viens d'évoquer en dernier, c'est-à-dire la régularisation des travailleurs sans papier, pour vous, c'est ça la ligne rouge absolue ?
Écoutez, on a en tout cas un texte qui est retardé. C'était prévu pour la fin d'année, puis le début d'année. Maintenant, on nous parle du printemps. On voit bien qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils mettent dedans. On a entendu quelques bribes, et parmi ces bribes, il y a en effet la régularisation massive de travailleurs clandestins dans les métiers dits en tension. Et pour nous, députés Les Républicains, c'est une ligne rouge. S'il y a dans le texte cette régularisation massive, nous voterons contre le texte, quels que soient les dispositifs qu'il y a à l'intérieur autres.
Puis Marlex qui a même dit que ce serait une porte ouverte à une immigration massive. Vous le rejoignez dans le propos ? Ou vous trouvez que c'est peut-être un petit peu...
Oui, bien sûr, parce que...
Un peu gros ou un peu exagéré.
Pour deux raisons. Un, régulariser massivement des travailleurs clandestins, c'est envoyer le signal à d'autres clandestins qui peuvent venir en France et qu'ils seront régularisés. Boris Johnson, en 2019, lorsqu'il a voulu prendre la tête de la Grande-Bretagne, il avait fait campagne sur la régularisation de 500 000 clandestins à Londres. Je suis député de Calais. Je peux vous dire que depuis que les conservateurs sont au pouvoir au Royaume-Uni, depuis qu'il y a eu cette vague de régularisation, il n'y a jamais eu autant de personnes qui tentent de traverser clandestinement la Manche avec les drames que nous avons vécus. Et puis d'autre part, tous ceux qui sont régularisés, qui sont aujourd'hui clandestins et qui auront demain un titre de séjour, pourront faire venir leur famille avec le regroupement familial 2-3 ans après, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune réforme qui est prévue dans le texte de loi sur l'immigration qui nous sera présenté pour limiter drastiquement les possibilités du regroupement familial. Aujourd'hui, pour qu'un étranger fasse venir sa famille en France, il doit justifier de 1 200 € de salaire et d'un appartement de 30 mètres carrés. Je suis désolé, on ne peut pas faire vivre 4 ou 5 personnes de sa famille avec aussi peu de ressources matérielles. Il faut faire comme au Canada, par exemple, qu'on ne peut pas taxer d'être un pays extrémistes en matière d'immigration, augmenter drastiquement les seuils, faire en sorte de placer sur un compte séquestre l'ensemble des coûts de la famille pendant 2 ou 3 ans, et à partir de là, on pourra commencer à discuter.
Donc, dernière question. On entend beaucoup dans vos rangs que le gouvernement va à contresens de ce que veulent les Français, et on va le voir tout à l'heure dans le détail. C'est vrai qu'en termes d'immigration, ils veulent être pour un contrôle plus strict, à 70% contre 30%. Ce qui veut dire qu'en l'état et en l'espèce, le texte tel qu'il vous est présenté aujourd'hui, vous ne le voterez pas.
Ah bah sur les bribes qui nous sont présentées, non, évidemment, on ne peut pas être favorable à la régularisation massive de sans-papiers. Aujourd'hui, on a une immigration qui est familiale, subie, sous-qualifiée. 40% des immigrés en France ont un niveau brevet des collèges ou inférieur. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une immigration non pas familiale mais du travail, non pas subie mais choisie, et non pas sous-qualifiée mais surqualifiée. Il faut qu'on ait des médecins, des ingénieurs informatiques, bref, des jobs qui permettront de pouvoir embaucher des personnes qui sont déjà en France. Et puis, pardon, mais avant de régulariser des clandestins et des sans-papiers, faisons en sorte d'avoir dans ces métiers qui cherchent de la main-d'œuvre, et ils ont, en effet, il y a des problèmes de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration, dans les métiers techniques, mécaniques, dans les métiers d'artisanat, faisons en sorte de remettre au travail les plus de 5 millions de Français et d'étrangers en situation régulière. irrégulières qui sont au chômage. Durcissons les conditions d'octroi des allocations chômage, faisant en sorte qu'une personne qui refuse une offre d'emploi dans sa zone géographique, dans ses qualifications ou une formation dans un métier en tension, se voit supprimer ses aides. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à alimenter comme ça un gouffre qui fait au final une vraie défiance et qui va amener à une seule chose, qui va amener à la montée des populismes entre extrême gauche et extrême droite. Et c'est cela dont on ne veut pas aujourd'hui notre pays, c'est se retrouver dans une situation où il n'y a aucune voix médiane, aucune voix raisonnable qui dit oui à une immigration, mais une immigration choisie, réduite, restreinte à vraiment ce qui est nécessaire à notre pays et non pas au désirata du patronat qui utilise la clandestinité des travailleurs sans papier comme étant une trappe à bas salaire.
Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont et merci à Léo Marchelier ainsi que Gauthier Lebret qui ont permis la réalisation de ce duplex depuis l'Assemblée. Élodie Huchard du service politique est là également. Alors quand même, autour de ce texte, il y a un grand flou qui persiste. Certains disent c'est tout à fait contradictoire et ça ne va pas dans le sens, comme je le disais à l'instant, des désidératas des Français.
Oui, parce que finalement, dans ce texte, on veut faire plaisir à tout le monde pour trouver une majorité. Donc l'idée, et on le voit au fur et à mesure des prises de parole, au fur et à mesure qu'on a compris les contours de la loi, on veut donner certaines garanties à la gauche en expliquant qu'il faut de l'humanité, qu'il faut mieux intégrer, qu'il faut régulariser des personnes qui travailleraient sans avoir les papiers pour le faire. Mais forcément, dans le même temps, il faut aussi parler à la droite, donc il faut expulser plus facilement, revoir le système du droit d'asile, des OQTF. Donc finalement, en faisant plaisir à tout le monde, on vient de l'entendre avec Pierre-Henri Dumont, on aurait pu avoir par exemple des députés de l'autre côté de l'hémicycle de gauche, on aurait eu les mêmes critiques parce que finalement, personne n'y trouve son compte. Et même sur la manière, le duo qui sera formé par Gérald Darmanin, Olivier Dussopt, alors on comprend d'un côté l'intérêt puisqu'on a le ministre de l'Intérieur pour l'immigration, le ministre du Travail, ça semble logique, mais on est sur deux personnalités politiques assez différentes qui ont sans doute une vision l'immigration différente. On voit que pour Gérald Darmanin, l'immigration, c'est plutôt lutter contre l'immigration illégale, être méchant avec les méchants, comme il dit notamment. Du côté d'Olivier Dussopt, c'est plutôt l'intégration par le travail. Là, on le rappelle, c'est un débat sans vote aujourd'hui. Mais on voit bien que même si Gérald Darmanin n'a de cesse de dire qu'il va écouter les oppositions, prendre leurs amendements, qu'il va enrichir le texte, à un moment donné, s'il enrichit du côté de la droite, ça déplaira à la gauche et inversement. Et donc, il va falloir voir où est la majorité. Et c'est aussi pour ça que les Républicains, pour l'instant, ne s'expriment pas trop sur le fond, sur ce qu'ils veulent précisément, parce qu'ils ont conscience qu'évidemment, le gouvernement aura besoin d'eux pour faire voter cette loi.
Il va falloir trancher sur la philosophie. On ne peut pas toujours faire du en même temps sur tout et n'importe quoi, quand même, Edouard Dombiensipel.
Je ne comprends pas pourquoi vous dites
ça. Précisément pour les raisons qu'elle vient d'expliquer.
Et je vais vous répondre d'une manière très simple.
À tout le monde sans contenter personne.
Écoutez, je vais vous répondre d'une manière très simple. C'est pas parce que dans un orchestre symphonique, vous avez des gens qui jouent du violon, d'autres qui jouent de la flûte, qui ne jouent pas la même partition et que ce n'est pas accordé et que
ça a
du sens.
Au-delà de l'image, la ficelle,
Donc entre Dussopt et Darmanin, il y a chacun qui s'occupe d'un domaine. L'un, c'est la sécurité, l'intérieur, l'autre, c'est le travail. Et ils sont mis ensemble au nom d'un gouvernement, d'une ligne claire et nette et au nom d'un objectif. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal d'avoir des gens qui, en France, travaillent, sont installés et qui sont encore en situation irrégulière. Certains d'entre eux, non seulement méritent d'être régularisés, comme en plus, on en a besoin. C'est la moindre des choses. D'accord. Et je vous le dis d'une manière très simple, on peut bavarder dans tous les sens, mais les Français, s'il n'y avait pas cette main-d'œuvre immigrée, régularisée, le pays ne tournerait pas. Essentiellement de ce qu'on appelle justement les essentiels. Ils font les routes, ils font le bâtiment, ils sont éboueurs, ils sont dans les restaurants. Sans eux, les Français ne vivraient pas. Et les Français ne veulent pas faire le travail qu'ils font, qui est très dur. Donc à ce moment-là, je pense qu'une régularisation, la régularisation est la chose juste.
À côté de vous, elle a très bien étudié le texte et elle va vous dire qu'il y a quand même des manquements, des bémols et des freins à ce que vous dites.
Mais c'est sa liberté, c'est sa liberté de journaliste.
Non, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un an ou deux?
La vraie question, et c'est ça justement qui fait peur à la gauche, parce que dire vous êtes dans un métier en tension, on vous donne un titre de séjour pendant un an qui est renouvelable. Au bout d'un an, ou deux, ou trois, ce métier n'est plus en tension, et donc vous n'avez plus, ou cinq, ou dix, ou quinze, on peut aller plus loin, mais au bout de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui donc ont travaillé, qui ont été jugées utiles à un moment donné, qui a priori se sont intégrées, qui travaillent, qui ont eu des contrats? Au bout d'un an ou deux, on leur dit désolé, plus besoin, vous repartez.
C'est
ça pose la question de la manière dont on traite les gens, et donc forcément, c'est ça qui ne fait pas à la gauche. Et ça pose la question, une fois de plus, est-ce qu'on sera capable, ces personnes-là, de les renvoyer potentiellement? Est-ce qu'on va imposer ça? Est-ce qu'on va s'imposer, suivant le nombre de titres de séjour qu'on accorde? C'est-à-dire que potentiellement, au bout d'un an, toutes ces personnes-là vont repartir, devront repartir.
La règle est celle-là, c'est que les titres de séjour, ils sont annuels la plupart du temps. Les titres de travail de séjour sont annuels.
Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Jean Messia, le sondage des Français sur
la vérité, ça fait mal, je suis d'accord.
70, c'est pas la question, c'est que vous êtes 5 sur le plateau, il n'y a que vous qui parlez. Et moi, accessoirement, mais bon, pour vous couper. 70-30, regardez. La France doit-elle durcir sa politique d'immigration? Oui, à 70%.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que
le texte de loi qui est proposé ne répond pas à la ventilation de ce sondage. Puisque, en fait, ce texte de loi développe une vision économiciste et techniciste de l'immigration, qui consiste à dire que les immigrés vont faire les enfants que les Français ne font pas faire et qui vont remplacer les emplois que les Français ne veulent pas faire. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les faits sont têtus. C'est-à-dire que nous avons dans notre pays un taux de chômage des étrangers hors Union européenne qui est 3 fois plus important que le chômage national. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on régularise et qu'on fasse venir des gens sur des métiers très pointus qui sont effectivement en tension. Mais la contrepartie de ça, c'est de virer des étrangers qui sont chez nous, qui soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je... Donc il n'y a pas de vision, si vous voulez, sur l'identité. Les individus... Macron ne considère pas que la France est une nation. Emmanuel Macron considère que la France... C'est un marché, c'est un morceau du marché mondial. Et donc, en fait, les individus, étant des agents économiques, ils sont interchangeables.
Non, mais c'est bien, la caricature, c'est un métier.
Non, c'est pas la caricature.
Vous êtes un professionnel,
monsieur Messia. Quant au métier, attendez, les métiers en tension, quand un secteur embauche des travailleurs clandestins, c'est parce qu'il les embauche pour les payer moins cher que les travailleurs réguliers. Donc, si on régularise ces gens, eh bien, il va falloir qu'ils basculent dans la régularité du reste. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que si vous régularisez les gens qui travaillent clandestinement, c'est-à-dire ceux qui ont bravé les lois de la mer, qui ont bravé les lois de la frontière, qui ont bravé les lois du séjour et que vous récompensez, à chaque personne régularisée, vous suscitez 10 vocations à venir en France dans le pays d'origine. C'est comme si quelqu'un conduisait depuis 10 ans sans permis et qu'on lui disait, comme vous conduisez assez bien, finalement, on va vous donner le permis. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Ça nous promet des heures mouvementées, en tout cas, ce texte, vous l'aurez compris. Quelques réactions politiques d'ores et déjà, et après on revient sur le plateau.
Un grand texte qui, à notre avis, ne changera strictement rien et même aggravera la situation, puisque en réalité, il s'agit de créer une nouvelle filière d'immigration selon un concept qui nous est vendu depuis maintenant 50 ans.
On a un énième texte qui prétend exiger plus de fermeté, mais de l'autre côté, on nous annonce plusieurs dizaines de milliers de régularisations. C'est naturellement insupportable.
La question de la régularisation par le travail est une bonne chose. Pour le reste, il me semble que c'est notre devoir d'humanité de faire en sorte que quand des personnes fuient la guerre, on puisse les accueillir dans des bonnes conditions. Mais le sujet, la question qui est posée, c'est comment on fait en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir.
Ludovine de la Rochère, réaction peut-être à ce que dit Manuel Bompard.
Moi je propose à Manuel Bompard qu'il aille s'installer quelque part dans un autre pays pour laisser sa propre place à tous ceux qu'il voudrait accueillir du monde entier dans un espèce de summum de misérabilisme et en fait de naïveté et d'inconscience. Tout ça ne tient pas la route et n'a absolument aucun sens, en tout cas pour le peuple français. Mais donc qu'il donne exemple et qu'il émigre lui-même. Pour en revenir au texte, c'est du « et en même temps ». Et du point de vue de l'analyse politique, je ne veux pas aller sur le fond, mais répondre à Eduardo. Ça ne peut pas fonctionner, le « et en même temps » sur un sujet aussi clivant, aussi important. Et c'est pour ça que je pense que ce sera un échec. Je m'explique, la partie régularisation des métiers en tension, ça plaira à la gauche. Après, vous avez toutes les OQTF, il n'y aura plus 12 recours, mais 2 recours possibles. Mais donc ça devrait plaire à la droite. Sauf qu'on sait que le gouvernement ne l'applique
pas. C'est pas sûr qu'ils votent la gauche, ils vont pas voter.
L'appliquera la droite. Enfin, je veux dire, les OQTF ne sont pas appliqués. Donc, même si vous réduisez les recours, même si vous avez beaucoup plus d'OQTF pour exécution définitive, si ça n'est pas appliqué, ça ne change rien. Donc, en réalité, ça ne contentera personne. Le troisième point, c'est l'évocation des quotas, qui est évoqué à demi-mot, et ça ne fonctionnera pas non plus. L'échec, mais le désastre sous les yeux de la France entière, de l'Océan Viking, avec seulement 234 personnes à bord et imaginez que le gouvernement sera capable de gérer ce qu'il prétend rendre plus ferme, personne ne peut y croire et donc ce « et en même temps » politiquement
répondez-lui.
Ne fonctionnera pas.
Vous avez quelques secondes pour lui répondre. C'est la fin, mais vous avez quelques secondes.
Non, mais très vite, parce que je ne vais pas me répéter. D'abord, entendre Mme Le Pen et M. Ciotti être vent debout contre ce texte, c'est plutôt pour moi de bons indicateurs de ce que le texte va dans le bon sens,
compte tenu de mes valeurs
et de ma vision des choses et de celle du gouvernement que je soutiens. Ensuite, je ne crois pas que ce texte est fait uniquement pour plaire à la droite, à la gauche. Ça, c'est bon,
c'est du macronisme. C'est ce qu'on appelle le macronisme.
Je pense que d'abord, ce texte vise à répondre à un problème concret. Une situation
concrètes de travailleurs qui sont installés en France, qui sont dans la, aujourd'hui dans la clandestinité.
La régularisation, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec sur les OQTF? Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec sur les OQTF de dire non, on va régulariser comme ça, on ne verra pas
trop. Il y a un sujet sur les OQTF parce qu'il y a une pression migratoire, elle n'est pas complètement, ce n'est pas une invasion, mais il y a une pression liée tout simplement aux difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui dans certains pays d'où proviennent ces migrants, à cause d'états défaillants, de guerre, de climat, de famine, enfin, tout ce que vous voulez. Donc on doit traiter ça, on doit le traiter au niveau européen, mais la France, elle n'est pas submergée
d'immigrés. Ce texte ne sera voté ni par la droite ni par la gauche.
Mais nous verrons vos préjugés avant, laisser les députés décider.
Ce sera
et moi, je trouve que ce texte, il est honnête. Il traite un problème concret. On assume une immigration économique et on assume aussi de respecter la loi en matière d'expulsion.
30 dernières secondes pour vous.
Très simple.
Non mais Emmanuel Macron veut reprendre la main sur l'immigration. En fait, il ne faut pas une loi sur l'immigration, il faudrait une loi contre l'immigration, ce qui est quand même tout à fait différent. La deuxième chose, c'est quand il dit qu'on va expulser les gens qui n'ont pas réussi leur test de français pour l'intégration, etc. Mais on se fout du monde, clairement. Quand on n'arrive pas à expulser des criminels étrangers sous OQTF qui sont multirécidivistes, qui non seulement ne sont pas expulsés, mais qui continuent à bénéficier de prestations sociales, qu'on ne vienne pas nous expliquer qu'un type qui a foiré un test de français va être viré.
Mais parce que là, on se fout du monde. Ici.
Et ce sera le dernier mot. Et le dernier verbe, surtout. Merci à tous les cinq. Certains vont rester parce qu'on va parler des difficultés des pharmaciens. On n'y pense pas forcément. Mais alors là, en ce moment, ils sont un peu sur tous les fronts. Les vaccins, il paraît que ça repart. Enfin, ça, c'est Olivier Véran qui le dit. Ça concerne les officines. Les délestages, à quelle sauce vont-ils être mangés? Ils se posent bien la question parce qu'aussi, ils ont des frigos, vous savez, pour la préservation typiquement des vaccins à une certaine température. Et puis, il n'y a plus de Doliprane pour les bébés. Alors vraiment, c'est le bon.
Ni d'amoxicilline.
Donc, vous avez une pénurie de progressiste.
On en parle avec un spécialiste. À tout de suite. La dernière partie de 90 minutes info revient juste après le flash de Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron dénonce les scénarios de la peur concernant des possibles coupures d'électricité cet hiver. En déplacement en Albanie à l'occasion d'un sommet européen, le chef de l'État assure que la France va tenir si chacun fait son travail. Selon lui, les coupures d'électricité peuvent être évitées si la consommation baisse de 10%. Et dans ce contexte, Enedis dévoile un site d'information pour connaître les zones concernées. En allant sur Internet, vous pourrez donc savoir si votre habitation est touchée par des coupures d'électricité en cas d'alerte sur le réseau. Un système actualisé deux fois par jour en début et fin de journée. Volodymyr Zelensky s'est rendu à Sloviansk, dans le Donbass ukrainien. Devant le nom de la ville peint aux couleurs jaune et bleu du pays, le président ukrainien a salué les militaires à l'occasion du jour des forces armées. Une visite symbolique à une quarantaine de kilomètres de Barmout, le principal champ de bataille de la région. Depuis cet été, les forces russes tentent de conquérir cette ville sans y parvenir pour le moment.
Merci beaucoup. Et sur ce plateau, on accueille Philippe Bessé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération des pharmaciens d'officine. Pourquoi on vous a fait venir? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vous touchent et qui vous concernent au premier chef. On va les dérouler gentiment. J'aimerais commencer avec les délestages. Vous aussi, comme beaucoup de Français, vous serez touchés. Est-ce que vous avez des craintes pour vos officines? Est-ce qu'il y a des matériaux, des produits, des médicaments qu'il faut absolument conserver, même sur ces petites périodes de 2 heures dont on nous parle, dans des conditions optimales?
Touchés ou pas? On verra bien. On a un peu de mal à savoir si on va être exonéré des délestages ou pas. Nous avons eu des relations au plus haut niveau, hein, jusqu'à la Matignon pour traiter ce sujet. Normalement, nous faisons partie des publics prioritaires, notamment à cause de la chaîne du froid et des vaccins, des insulines, des produits qui sont dans les frigos et qui doivent être conservés à température entre 2 et 8 degrés de façon stricte. Mais il n'est pas sûr qu'on puisse individualiser une pharmacie dans un quartier. Et donc, on ne sait pas, à l'heure où je parle, si on est concerné ou pas par ces délestages. Mettons qu'on le soit, parce qu'il peut y avoir des accidents. En effet, le gros problème, c'est le frigo. Le problème de la pharmacie, c'est l'armoire réfrigérée, où sont stockés les vaccins, les insulines, etc. Il ne faut pas que ça dépasse 8 degrés. Donc, on a une liste qui nous a été fournie, précise, médicament par médicament. On a des produits, si ça dépasse 8 degrés, il faut les jeter. Il y a des médicaments qui peuvent durer 12 heures, d'autres qui peuvent durer 8 heures. Il va falloir tenir un inventaire.
Okay. Un arrêt du froid, de la chaîne de froid pendant 2 heures, c'est déjà trop long pour vous ou ça peut aller?
Un arrêt de la chaîne du froid pendant 2 heures, ça dépend du frigo.
Ouais.
On a là aussi, mais pour certains, oui, c'est trop froid. On a des capteurs de température. Donc on voit si ça dépasse 8 degrés ou pas. Est-ce qu'en 2 heures, on va dépasser 8 degrés? On va voir. Hein.
Petite réaction, Jean, j'entends que ça vous inspire.
Oui, mais c'est vrai qu'en fait, l'électricité est tellement incrustée dans l'ensemble de notre mode de vie qu'on n'y pense pas. La chaîne du froid, les portes de parking, les ascenseurs, etc. Mais la chaîne du froid plus particulièrement, parce que bon, on a tous des congélateurs, des frigos, et personne n'a envie de récupérer des kilos de viande avariée le soir parce que le frigo s'est arrêté. Donc effectivement, c'est plus problématique pour des secteurs très stratégiques comme le secteur du médicament, où là, effectivement, la chaîne du froid est nécessaire. Mais là, nous sommes véritablement au cœur du problème. C'est-à-dire qu'avec ce que vous venez de dire, monsieur, on est au cœur de l'idée que la France est en train de se tiers-mondiser. Parce que moi, la dernière fois que j'ai connu ça, notamment avec des conséquences sur les produits pharmaceutiques, c'était quand j'étais dans les pays du Moyen-Orient. Donc, c'est vous dire.
Puisqu'on parle de vaccins et de préservation des vaccins, j'aimerais juste sonder votre avis sur ce qu'a dit Olivier Véran, ça vous a sans doute pas échappé, en matière de vaccination, sans doute faisant référence à cette fameuse quatrième dose. Il dit « ça repart », écoutez-le.
Depuis que les messages recommencent à être passés avec insistance, le nombre de vaccinations quotidiens augmente. On était aux alentours de 90 000 vaccinations sur une journée vendredi, ce qui est un record depuis longtemps. Donc c'est en train de bouger. Et c'est tant mieux parce qu'en plus de la Covid, il y a la grippe. Et en plus de la Covid et de la grippe, il y a de la bronchiolite.
Alors, est-ce que ça repart vraiment? Est-ce que ça cible bien les publics concernés, c'est-à-dire les personnes à risque, les personnes plus âgées? Est-ce que ce genre de public refréquente les officines pour venir prendre le vaccin?
Alors oui, ça repart depuis ces derniers jours, effectivement. Et peut-être parce que le message est plus clair et plus simple. En fait, à partir d'aujourd'hui, bien sûr, toutes les personnes à risque peuvent venir, mais également les personnes qui vont côtoyer des gens à risque, notamment pendant les fêtes de fin d'année. Donc quand ils vont venir voir la famille. Et donc ce sont aussi ces publics-là qui viennent se faire vacciner, tant pour la grippe que pour la Covid.
Mais
donc,
il nous dit ça repart, alors que quand on regarde le ratio, c'est plus 0,2% en 7 jours. Oh non, c'est un peu de la com, tout ça.
Mais c'est clair que c'est très faible. Hein. On dit que ça repart, évidemment. C'est bien mieux que ce que c'était, mais c'est très faible. On est dans des stades au niveau des publics prioritaires, on est dans les 40% de la population vaccinée, ce qui est faible. Voilà.
Petite réaction peut-être, Ludovine, sur ce que dit Olivier Véran. Est-ce que c'est un peu la méthode Coué? Est-ce que c'est un peu du...
Oh, mais ça, la méthode Coué, c'est la grande spécialité, la communication performative. Je dis donc ça se réalise. Et ça, c'est d'Emmanuel Macron jusqu'au dernier de ses ministres. Et évidemment, Olivier Véran, son porte-parole, enfin porte-parole du gouvernement en particulier. Moi, je suis très choquée de voir que nous assistons, effectivement, et même en accéléré à la tiers-mondisation de la France. L'hôpital est au bord de l'implosion, l'école, le niveau s'effondre, la sécurité devient extrêmement difficile, mais avec encore une certaine dose de déni, la justice va très mal. Et l'énergie elle-même et tous les secteurs de l'énergie sont touchés. Et tout cela, et je m'arrête là, pour des raisons liées à des erreurs qui ne datent pas forcément d'Emmanuel Macron, mais largement... et en général accentué par Emmanuel Macron, par des erreurs dramatiques, par beaucoup d'idéologie, de communication. Et le problème, c'est que pour le moment, ils ne reconnaissent pas, et tout ça demanderait un grand coup de balai dehors.
Et puis, ce n'est pas fini. Hein, on vous a fait venir aussi pour commenter cette pénurie en matière de Doliprane enfant. Regardez ce reportage pour comprendre de quoi il retourne aujourd'hui.
Ces petites boîtes roses, bien connues des enfants en cas de douleur, se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies. En cause, le manque de paracétamol mais aussi de maltilol, une substance artificielle sucrée indispensable à la fabrication du Doliprane en sirop. Alors leur vente est contingentée en pharmacie.
On ne peut pas en commander autant qu'on veut, voire le stocker. Ils nous imposent une certaine quantité minimum pour qu'on puisse en avoir un petit peu en pharmacie et répondre à une certaine demande.
Mais pas de panique. Pour calmer les douleurs, d'autres formes du médicament peuvent être données à l'enfant.
Si un enfant a besoin de Doliprane 250 mg en fonction de son poids, rien ne vous empêche de couper le Doliprane ou un paracétamol effervescent, parce qu'il y a d'autres labos qui fabriquent de l'effervescent. Alors certes, il n'aura peut-être pas le goût du sirop Doliprane, comme tous les enfants aiment bien ce goût-là. Vous allez avoir un autre goût effervescent qui sera peut-être plus facile à prendre et au moins vous pouvez répondre à la demande en fonction de la fièvre ou la douleur qu'a l'enfant.
Les professionnels de la santé conseillent aussi d'adopter une posologie plus faible, 3 prises par jour toutes les 8 heures, au lieu de 4 toutes les 6 heures.
Philippe Besset, 1, vous confirmez? 2, quels sont les substituts, si c'est le cas pour les parents? Et 3, quels vont être les délais d'approvisionnement?
Non, c'est un gros problème. C'est, ça touche pas que le paracétamol. Maintenant, ça touche des antibiotiques comme l'amoxicilline, ça touche des anti-inflammatoires comme la prednisolone, mais parlons du paracétamol, du doliprane. C'est incroyable que nous soyons dans une phase de tension au minima, de pénurie dans beaucoup de pharmacies. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pharmacies où on trouve du paracétamol et d'autres où il n'y en a plus du tout. Donc c'est un problème parce que nous, on est confrontés aux mamans, on est confrontés à la famille qui n'a plus de solution. Et effectivement, on a très peu d'alternatives à partir du moment où on n'a pas de paracétamol pour la fièvre, pour faire tomber la fièvre.
On a une petite visibilité sur la période à laquelle ça va s'arranger ?
Écoutez, ça va s'arranger au printemps parce que je crains malheureusement que l'hiver soit très très complexe pour l'ensemble de ces produits. À noter que nous avons perdu la production de cette matière première au niveau national et c'est important de la reprendre. On a une entreprise qui va arriver, Sequence, qui va reprendre du paracétamol, mais tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas indépendant.
En quelques secondes, vraiment.
En fait, le problème, c'est qu'on a désindustrialisé la France, on a délocalisé la production, l'emploi est trop cher, donc on fabrique en Asie. L'Asie s'est mise à consommer avec la hausse du niveau de vie un certain nombre de médicaments dont nous avons besoin, donc nous sommes en manque et ça va durer un certain temps. Mauvaise
Jean
gestion.
Jean Messia, pour la dernière réaction.
Donc pénurie d'électricité, pénurie de médicaments, bientôt on va peut-être nous annoncer des pénuries d'eau. Donc qu'est-ce que nous aura apporté Emmanuel Macron en 6 ans, en fait ?
Que des ennuis.
Voilà.
On finira sur ces derniers mots. Merci beaucoup Philippe Besset d'être passé chez nous. Dans un instant, Punchline. Laurence Ferrari, demain, 15h30. Rendez-vous 90 minutes info. Merci pour ce débat très animé. À tous. À bientôt.
C'est l'état de la France.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.